Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, snobles.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est presque 13h et vous écoutez le Théâtre de la Gamelle. Aujourd'hui, en ce 1er novembre, nous allons vous proposer la lecture d'une pièce d'Hanok Levin. Et cette pièce a pour titre « Funérailles d'hiver ». Voilà que ça tombe bien. Nous sommes donc dans la thématique et pour ce faire, je suis accompagnée de 4 lecteurs et lectrices. Je les présente tout de suite. Il y a Sarah Brochard, bonjour.
Bonjour.
Fata Boudia, bonjour.
Bonjour.
Stéphane Ducreux, bonjour.
Bonjour.
Et Pauline Thirault, bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons, sans plus attendre, rentrer dans l'écriture d'Hanok Levin, un peu folle, un peu drôle. La pièce a été, pour les besoins du temps qui nous est apparti, légèrement coupée. Quelques personnages ont été gommés. Mais j'espère que malgré tout, vous passerez un bon moment à notre compagnie. Bonne écoute et à tout de suite après ce voyage. Tableau 1, la mort de la mère. La nuit, chez les Bobitschek, la Tchèque est au chevet d'Alté, qui agonise. Je vais mourir. C'est l'hiver. Y aura-t-il quelqu'un à mon enterrement?
Oui, maman.
Qui? Qui donc affronterait le froid de l'hiver pour accompagner une vieille femme seule et oubliée jusqu'à sa dernière demeure? Qui?
Moi, maman.
Moi, qui d'autre?
La cousine Shradia, le cousin Rachès et leur fille Velvetia.
Mais elle se marie demain, Velvetia. Oh, tire, qu'en plus je vais rater un mariage. Pff. Si on m'enterre demain, tu crois qu'ils viendront?
Évidemment.
Et ils repousseront un mariage qu'ils attendent depuis des années?
C'est le mariage qui attendra, maman.
Tout ça pour moi?
Tout ça parce qu'ils t'aiment.
Qu'est-ce qu'on dit à la radio sur le temps de demain?
Il va pleuvoir.
Bah évidemment. Mon enterrement pourrait-il se dérouler autrement que sous la pluie? Crois-moi, ils ne renonceront pas à une salle de réception bien chauffée avec gigot et cognac pour un cimetière pluvieux avec petite vieille et trépas.
Mais si, maman. Ils n'iront pas au mariage et viendront à l'enterrement avec des parapluies noirs.
Pff, n'importe quoi. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, au fond, qu'est-ce que ça change?
Rien, maman.
Mais tu as dit qu'ils viendraient.
Ils viendront, maman, ils viendront. Ils viendront tous.
Parce qu'il faut bien que quelqu'un vienne.
Bien sûr.
Parce que j'ai tout de même vécu sur cette terre. J'ai vécu, non? J'ai occupé une petite place, j'ai respiré un peu d'air, j'ai parlé, j'ai préparé à manger, j'ai été. On enterra tout de même un être humain.
Oui, maman. Tu as occupé une petite place, tu as vécu. Nous serons tous là.
Tous? Tu parles. 3 personnes et il dit tous.
4.
Bah, j'en vois que 3.
Cousine Shradia, cousin Rachès et Velvetia, ça fait 3. Plus moi, 4.
Plus toi, hein. Plus lui. Oh, bah, comme s'il était de ceux qui comptent dans un enterrement. L'ange de la mort, Angel Samoilov, apparaît en arrière-plan. Alté lâche un profond soupir et meurt.
Maman, maman, nous viendrons tous, maman. Cousine Shradia, cousin Rachès, Velvetia, et peut-être, qui sait, peut-être la famille du marié aussi. Nous nous retrouverons autour de la tombe, un cercle familial bien uni, des moins jeunes et des plus jeunes. Il y en a même une très jeune et très jolie. Nous penserons à toi, nous évoquerons ton souvenir, nous parlerons de toi en chuchotant et submergés par le chagrin, nous sentirons déjà le vide de ton absence. Parce que tu as vraiment vécu sur cette terre, maman. Nous en sommes tous témoins et ta mort, maman, est la mort de quelqu'un qui indubitablement a vécu ici-bas et qui indubitablement n'y est plus.
Tableau 2. Derrière la porte. La nuit. La porte de l'appartement de la cousine Shradzia, côté intérieur, l'entrée. Côté extérieur, le palier où se tient la tchèque qui frappe à la porte.
Je peux savoir où tu vas ?
Ouvrir ? On frappe ?
Chut ! As-tu une idée de qui ça peut être ?
Comment veux-tu que je sache avant d'ouvrir ?
Alors toi, tu te précipites pour ouvrir les portes comme ça, en pleine nuit, sans savoir à qui ?
Je peux demander qui c'est avant d'ouvrir.
Pourquoi demander qui c'est ? Est-ce que je suis, moi, à la porte de la maison ?
Oui.
Es-tu, toi aussi, à la maison ?
Hein ? Oui.
Où est Velvetia ?
À la maison.
Et son fiancé, Propotchenko ?
À la maison.
Sa mère, Tsiktkeva ?
À la maison.
Sont-ils tous en train de dormir ?
Oui.
Y a-t-il encore quelqu'un qui devrait être à la maison ?
Non, personne.
Alors pourquoi as-tu besoin de demander qui c'est ? Qu'est-ce que ça peut te faire, qui c'est ? Pourquoi te préoccuper du reste de l'humanité ? À moins que tu n'attendes quelqu'un ?
Non.
À moins que nous ne voulions accueillir quelqu'un ?
Non.
Parce que, qu'est-ce que nous voulons ?
Dormir.
Et quoi d'autre ?
Marier notre fille Velvetia demain.
Et comment doit se passer ce mariage ?
Dans les meilleures conditions possibles.
Pourquoi vient-on au monde ?
Pour acheter un appartement.
Et à quoi sert cet appartement ?
À avoir des murs.
À quoi servent ces murs ?
À avoir une porte.
Et la porte, elle sert à quoi ?
À mettre une serrure.
Une serrure, c'est qui sert à quoi ?
À ne pas ouvrir.
Donc pourquoi vient-on au monde ?
Pour ne pas ouvrir.
CQFD. Quand on ne veut pas avoir d'ennui, on n'ouvre pas la porte. La seule chose que je demande, c'est de marier ma fille Velvetia demain. En ce qui me concerne, à partir de maintenant et jusqu'à la fin des festivités, la terre entière peut s'écrouler. Demain, je marie ma fille. Et maintenant, au lit. Il va réveiller toute la maison. La tchèque Bobitchek.
La tchèque Bobitchek ? À 2h du matin ? Mais c'est un garçon honnête.
C'est lui. Lui qui frappe et frappe et refrappe. Très poliment, mais qui ne bougera pas. Ce ne peut être que lui. Tu fais quoi ?
Je vais ouvrir. C'est la tchèque Bobitchek, le fils de ta tante.
Lui as-tu fixé rendez-vous ?
Non.
Est-ce que, par hasard, tu dois impérativement le voir ?
Non.
Par contre, qu'est-ce que tu dois impérativement faire ?
Dormir.
Et quoi d'autre ?
Marier Velvetia demain.
Quel âge a ma tante, Alte Bobitchek ?
Presque 80 ans.
Et se porte-t-elle bien ?
Pas vraiment.
Donc, si son fils, la tchèque, débarque chez nous à 2h du matin, qu'est-ce que tu en déduis ?
Qu'est-ce que j'en déduis ?
Ce que j'en déduis moi-même !
Qu'il vient tout à coup à 2h du matin et
oui, 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 oh, s'il vient tout à coup à 2h du matin, ça veut dire que...
Et...
Qu'est-ce que
j'en déduis ? Pourquoi pleures-tu ? Bah, si tu m'expliquais, je pleurerais peut-être, moi aussi.
Oui, oui, ya.
Quelle est... Oui, ya, zvei, zoom, piche. Mais pourquoi est-ce que tu me parles en siamois ?
Qu'elle est morte ! Que la vieille Alte Bobitchek a clamsé qu'elle va rater le mariage de Velvetia.
Elle va rater le mariage de Velvetia ? Le mariage... De Velvetia, elle va le rater ?
Évidemment ! Qu'est-ce que tu crois ? Si elle est morte, elle va le rater ! Comment pourrait-elle venir au mariage en étant 6 pieds sous terre ?
C'est vrai. D'ailleurs, même si elle venait, comment pourrait-elle manger ? Ben moi, jamais je ne serais mort la veille du mariage de Velvetia. C'est trop bête. Mourir la veille du mariage de Velvetia... Mourir, pas encore, mais... Pourquoi la veille du mariage de Velvetia ?
Que fais-tu ?
Ben, je vais ouvrir. C'est la tchèque Bobitchek. Sa mère est morte et il vient nous annoncer la nouvelle.
Vraiment ?
Oui. Non.
Si nous lui ouvrons la porte, que se passe-t-il?
Il entre.
Et ensuite?
Il nous apprend la nouvelle.
Et ensuite?
Nous pleurons un peu avec lui, peut-être.
Et quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Quelle cérémonie organise-t-on pour un mort?
Un enterrement.
Qui aura lieu quand?
Demain.
Et qu'avons-nous prévu pour demain?
Le mariage de Belvessia.
Un mariage et un enterrement. Qu'est-ce qui prime?
Que veux-tu dire?
Qu'on va devoir ajourner. Ajourner. Si tu lui ouvres maintenant la porte, il n'y a pas de mariage demain.
Pas de mariage demain?
Non.
Comment serait-ce possible? Ce mariage est prévu depuis longtemps, précisément pour demain.
Et si on ouvre la porte, si on se retrouve à l'enterrement de ma tante, si on se retrouve à l'enterrement de ma tante, pas de mariage pour notre fille.
Je n'ai encore jamais entendu une chose pareille. Ajourner le mariage de Belvessia? Mais c'est impossible, puisque ce mariage a déjà été fixé. Mais de longue date, à cette date. J'ai entendu beaucoup de choses étranges dans ma vie, mais pas qu'il soit possible d'ajourner le mariage de Belvessia. Ah non, celle-là, je ne l'ai jamais entendue. Oh, ajourner, décaler, repousser le mariage de Belvessia, vraiment? Le mariage de Belvessia? Mais que faire? Repousser? Et repousser quoi? Le mariage de Belvessia? De qui? De Belvessia? Le mariage de Belvessia? De Belvessia?
Chut.
De Belvessia? De Belvessia?
Je l'aimais bien, la vieille. Sincèrement, je l'aimais bien. J'aurais été la première à courir à son enterrement. C'est ma tante, tout de même. Mais elle est morte au mauvais moment. Ah! Pitié! Bobitchak, pitié! Comprends-moi! Sache que je compatis du fond du cœur. Alors, s'il te plaît, comprends-moi, toi aussi. Je ne peux pas t'ouvrir. Je ne peux tout simplement pas. Pitié, Bobitchak. Un peu de générosité, merde. Tu n'as donc pas de cœur? Même ta mère n'aurait pas autant insisté pour son enterrement assassin. Que fais-tu?
Je vais lui casser la gueule.
Ah, mais tiens-toi tranquille. Il faut prévenir les autres. Que personne ne se lève. Que personne n'allume la lumière.
Que se passe-t-il, cher futur beau-parent de mon fils?
Chut, on me dit chut la veille du mariage de mon fils? Non mais sachez que nous, espèce de bacille de choléra, les gens ne frappent pas comme ça à la porte au milieu de la nuit.
Sans doute un ivrogne.
Un ivrogne timbré.
Retournez dormir, chère future belle-maman de ma fille. Il ne va pas tarder à partir de lui-même.
Non mais chez nous, ça n'existe pas les ivrognes timbrés.
Cousine Shradia!
Cousine?
Il m'a appelée cousine, l'ivrogne!
Vous le connaissez?
Non,
cousin Rachès!
À peine.
De très loin.
De très, très loin. De Sibérie.
Il a débarqué tout d'un coup. Une drôle de créature.
Un peu comme un chat.
Cousine Shradia, cousin Rachès, ouvrez-moi. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
Oh, on le connaît. Un farceur.
Un Marseillais qui en fait toujours des tonnes.
Un Marseillais de Sibérie. Oh, bah, chez nous, ça n'existe pas. Hein. Elle est...
Ma mère est morte.
Que vous dire, chère future belle-maman de ma fille? Jugez vous-même. Ma tante vient de mourir et son fils tient absolument à vous l'annoncer, à nous l'annoncer tout de suite, maintenant. Comment puis-je ouvrir la porte et apprendre la nouvelle? Si l'enterrement a lieu demain, nous serons obligés d'annuler le mariage de Belvessia.
Et de Popochenko.
Sinon, de quoi aurions-nous l'air? Alors, je me suis dit, je n'ouvre pas, je n'en sais rien, on marie Belvessia.
Et Popochenko.
Demain, à minuit, après la fête, je serai tout à fait disposée à entendre le pire. De toute façon, la mort ne s'échappera pas. Maintenant, dites-moi, chère future belle-maman, que feriez-vous à ma place? Approuvez-vous, oui ou non, les mesures que je prends?
Bah, Dieu seul sait ce qui se passe chez vous. Bon, c'est plein de gens pas nets, hein, pas nets et pas intéressants. Votre famille m'inquiète drôlement.
Et ma politique? Je vous ai posé une question sur les mesures que j'ai prises.
Vos mesures, votre politique, mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'est une politique comme les autres.
Oh, il va réveiller les enfants! Il faut aller les prévenir!
Un temps, Shradia s'approche de la porte sur la pointe des pieds, dans l'intention de regarder par le trou de la serrure. Elle avance doucement, lentement, tendue, retient son souffle, toute limite, formant un bloc serré sur le qui-vive. Elle se penche pour regarder par le trou de la serrure, exactement au même moment. La tchèque, de l'autre côté, fait la même chose. Chacun a donc en face l'œil de l'autre, mais à cause de l'obscurité, il ne voit rien. Et se redresse en même temps, après un silence.
Cousine Shradzia, cousin Rachès, ma mère est morte il y a 2 heures, j'ai besoin de le raconter à quelqu'un et je n'ai que vous. Je ne vous aurais pas dérangé au milieu de la nuit, surtout pas au milieu de la nuit qui précède le mariage de Velvetia s'il ne m'était pas arrivé quelque chose de grave. D'ailleurs, il me semble qu'en ces derniers instants, maman a elle aussi pris conscience qu'il lui arrivait quelque chose de grave. Et vous, vous ne trouvez pas que c'est grave ?
Un temps. La tchèque s'en va. Shradzia pleure avec plus d'énergie, mais sans le moindre son. Tout le groupe commence lentement à reculer.
Oui, c'est triste, très triste. Mais nous sommes obligés de faire la sourde oreille. Une longue et dure journée nous attend demain. Un grand jour, un jour unique, historique, pour lequel nous aurons besoin de toutes nos ressources, de toute notre sensibilité et de toute notre intelligence. Ce sera un jour qui, plus tard, réchauffera nos vieilles carcasses. Parce que demain, oui, demain, nous marions notre fille Velvetia avec notre fils Popochenko.
Shradzia se penche à nouveau pour regarder par le trou de la serrure. Tous se penchent avec elle. À cet instant, apparaît dans l'encadrement d'une petite lucarne derrière eux la tête de la tchèque, juchée sur une échelle plaquée contre la façade. Il regarde un instant, les fesses pointées vers lui.
Vous voilà, tous déjà prêts, tête baissée pour l'enterrement de ma mère. Je vous donne rendez-vous à tous demain à 4h de l'après-midi.
Le groupe tourne la tête, surpris. Il découvre le visage de la tchèque et se détourne rapidement, bien décidé à ne pas capituler. Il reste d'abord figé, toujours penché en avant, puis rentrant la tête dans les épaules. Ensuite, il ferme les yeux, après un long silence.
Je vous vois quand même.
Mais nous n'entendons absolument rien. Nous dormons. Nous sommes levés en somnambule au milieu d'un rêve, toujours au milieu du même rêve. Nous retournons au lit.
Il se donne la main, et comme dans une espèce de défilé ou d'étrange danse, il se dirige prudemment vers l'intérieur.
Puis-je savoir quand vous vous réveillerez ?
Dans longtemps, dans très longtemps.
À supposer qu'on se réveille un jour.
Il s'éclipse sous le regard ahuri de la tchèque. Un temps, la lumière s'allume dans l'appartement voisin. Le professeur Kipernaille apparaît sur son balcon.
Bonjour, professeur Kipernaille, j'habite ici, je suis le voisin de palier de votre cousine Shradzia. J'ai tout entendu, je sais que votre mère est morte. Veuillez accepter mes sincères condoléances.
Merci. Ils sont là, mais ils dorment profondément, ils rêvent. C'est qu'ils avaient prévu un mariage pour demain.
Oui, je sais. Ils prennent des forces en prévision du grand événement qui les attend.
C'est sûr. Mais moi, je suis mû par le besoin intérieur de leur annoncer ma triste nouvelle, vous comprenez ? Ma mère est morte. L'enterrement est fixé pour demain à 4h de l'après-midi et il faut absolument qu'ils viennent.
Je comprends et compatis.
C'est pourquoi je suis obligé d'insister, vous comprenez ? Bon, je vais aller rédiger mon faire-part de décès et le déposer au journal. Après, je reviendrai directement ici et j'attendrai jusqu'au matin s'il le faut.
Et pourquoi ne pas leur laisser un mot ?
Un mot, ça ne se voit pas toujours.
C'est vrai. Monsieur...
La tchèque Bobicek.
Monsieur Bobicek, j'aurais volontiers pris sur moi de leur annoncer la mauvaise nouvelle dès demain matin, mais il... tout simplement, il ne me parle plus.
Il ne vous parle plus ? Et pourquoi donc ?
Je ne sais pas. Mais ça fait quelques années que ça dure. Avant, il m'arrivait d'entrer, même de rester discuter. Et puis un jour, j'étais chez eux et tout à coup... ils se sont levés et ont été dormir.
Ils vous ont planté là ?
Oui, en pleine conversation.
Mais pourquoi ?
Pourquoi meurt-on ?
Certes. Bon, je vais aller m'occuper du faire-part et je reviens tout de suite après.
Je reste éveillé, monsieur Bobicek. Vous pouvez attendre chez moi.
Je m'en voudrais de vous détourner de vos importantes recherches.
Bon, c'est moi qui vous le propose. Il arrive parfois à un professeur de ressentir de la compassion.
Merci, je viendrai avec plaisir.
Il sort. Kipernay reste sur son balcon tout en fixant la porte de Shradia. Shradia, Rachès et Stitskeva apparaissent soudain dans la rue. Ils se faufilent dehors, vêtus de lourds manteaux recouverts de pèlerines, tenant à la main des parapluies.
Mais pourquoi enfin savoir, on peut savoir quand même, enfin, où nous fuyons?
Chut, on va trouver un endroit sûr.
Mais tout est fermé à cette heure-ci.
On va s'arranger, le principal c'est de se dépêcher.
Moi, je sais où aller. Fin décembre, 3h du matin, sous une pluie battante, demain, c'est le mariage de notre fille Velvesia.
Avec notre fils Popochenko.
Quel est le dernier endroit où Bobicek viendrait nous chercher? Le dernier... Ah, la plage!
La plage? J'ai entendu. La plage?
Et c'est ce que j'ai. Et c'est que j'ai quelque chose là-dedans, moi.
Mais oui! On n'a qu'à aller faire un feu de camp sur la plage! Pourquoi pas? Un pique-nique au bord de la mer. Allez, venez!
3h du matin, il pleut, il y a du vent, tout est fermé, les gens dorment et rêvent, sous leur couette, du coup c'est l'été. Il n'y a que nous qui allons nous faire chier jusqu'au matin, inséminateurs de choléra. On va se retrouver trempés jusqu'aux os. Allez tous vous faire foutre, quelle vie de merde! Et c'est quoi cette famille où on meurt la veille d'un mariage, en hiver, la nuit en plus? Ah, je me demande bien d'où elle sort, hein, cette belle famille, qui crève tous la gueule ouverte. Et c'est quoi cette histoire qui tient pas debout et qui est pas intéressante, hein? Qu'est-ce que j'en ai marre, mais qu'une bombe à neutrons vienne plus vériser tout cet univers foireux. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Bande de calculs véreux. Qui a dit que Dieu n'existait pas? Dieu existe, hein, mais il est turc.
Ils sortent. Du haut de son balcon, le professeur Kipernay les voit raser les murs. À l'évidence, ils veulent dire quelque chose, mais ils ne trouvent pas les mots. Toute la joyeuse bande disparaît dans la rue, toujours à la queue-leu-leu. Un temps, la Tchèque revient précipitamment et il va s'engouffrer dans l'immeuble quand Kipernay l'interpelle. Monsieur Bobicek, bah ils sont tous partis.
Partis? Au milieu de la nuit, ils dormaient?
Non. Oh, ils avaient les yeux bien ouverts, hein, avec des manteaux et des parapluies. Et pour dire la vérité, ils avaient l'air de fuir quelque chose.
Je me demande bien quoi? La dernière fois que je les ai vus, ils dansaient en rêvant. Dans quelle direction? Où aller les chercher?
Voilà, je sais pas. Hein.
Merci pour le renseignement, monsieur Kipernay. Pardon de vous avoir fait perdre un temps précieux que vous auriez dû consacrer à vos importantes recherches.
Et j'ajoute qu'à la lumière des récents événements, et bien que je n'ai pas eu l'honneur de connaître feu madame votre mère, j'ai décidé d'assister à son enterrement.
Ça va faire 5, 6 avec le croque-mort, une demi-douzaine. Oh maman, tu auras aussi un professeur. Professeur Kipernay, votre générosité et votre sensibilité font de vous un être hors du commun. Oh,
merci. Vous pouvez monter vous reposer un peu chez moi si vous voulez.
Non, c'est trop.
Oh, pas du tout.
Et puis, je dois retrouver ma cousine Shradia pour lui annoncer la mauvaise nouvelle.
Bah, où irez-vous la chercher à 7h, dans l'obscurité du petit matin, sous cette pluie battante?
Je crois que je vais d'abord faire un tour sur la plage pour me rafraîchir les idées. Face à la mer, on pense mieux et on se concentre plus facilement. Au revoir.
À quelle heure l'enterrement, monsieur Bobicek?
À 4h de l'après-midi.
Tableau 3, le pique-nique sur la plage. L'aube d'une froide journée sur la plage, le vent, la pluie, le bruit des vagues qui déferlent sur les grèves, apparaît la joyeuse bande emmitouflée dans leurs manteaux et ils s'agrippent à leurs parapluies ouverts, luttent contre les bourrasques, se serrent les uns contre les autres, tapent des pieds afin de se réchauffer, frissonnent, gémissent et toussent.
Et voilà, mes chéris, un pique-nique matinal sur la plage. Ici, on n'a rien à craindre de Bobicek.
Super le pique-nique, non mais vraiment super. Un pique-nique qu'on n'oubliera pas de sitôt.
Dans 10 ans, croyez-moi, ce sera devenu une aventure.
Et si on allumait un feu et qu'on dansait la aura sur le sable?
Mais oui, non mais c'est ça. Dansez-nous donc une petite aura sur le sable, cher futur beau papa.
Alors, bah, au moins, chantons.
Mais oui, mais c'est ça, chantez-nous donc une petite chanson, cher futur poupapa. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas chanté.
Apparaissent les deux vieux sportifs, Rosenberg et Liechtenstein en maillot et bonnet de bain. Ils s'arrêtent devant le groupe tout en continuant de courir sur place. Rosenberg, en pleine forme.
Liechtenstein, idem, la forme.
Vous êtes venu faire du sport ou vous suicidez?
Fêter un grand événement.
Eh ben, félicitations. Quoi donc?
Nous organisons un pique-nique matinal en l'honneur du mariage de notre fille Velvetia.
Avec notre fils Popochenko.
Eh ben, félicitations, hein. Moi, je viens ici tous les matins courir et faire de la gymnastique. Du coup, j'ai l'air d'avoir 10 ans de moins. Ben, quel âge me donnez-vous?
70 ans.
Non, madame. Oh, là, vous m'étonnez, hein. J'ai 60 ans, mais j'en parais 50.
Et moi, en février, j'aurai 63 ans, mais j'en paraîtrai 53.
Bah, venez avec nous.
Oui, venez avec nous. Si nous vous rejoignez dès à présent, vous pourrez encore bénéficier d'une rallonge de vie.
Ouais, ouais, les Sunshine a raison, hein. Rien qu'avec le jogging d'aujourd'hui, vous gagnerez une semaine de vie.
Une semaine de vie, en plus, ne me ferait certainement pas de mal.
Il commence à courir à côté d'eux, mais lorsqu'il se rend compte que personne à part lui ne s'y met, il s'arrête et regagne sa place.
Bon, bah, eh bien, disons, une semaine de souffrance en moins.
Bon alors quoi? Vous préférez mourir 10 ans plus tôt? Eh bah, tant pis pour vous. Au revoir et toutes nos félicitations.
Mais surtout, tant pis pour vous.
Et peut-être qu'on devrait quand même courir avec eux.
Et pourquoi donc? On est en guerre?
Non.
On est en quoi?
En pique-nique. Ce qui n'empêche pas d'avoir froid. Hein. Et si j'éternue en plein mariage?
Vous avez l'intention d'éternuer?
Je ne suis pas aussi robuste que j'en ai l'air.
Alors c'est une méningite que vous allez choper.
Moi? Mais pourquoi moi? Je suis le seul à avoir froid? Pourquoi toujours moi en premier?
Mais chérie, vous ne devez penser qu'à ce qui nous attend ce soir.
Eh oui, ce soir, oh ce soir, mais qui tiendra jusqu'à ce soir, hein?
Et quand nous serons bien installés autour des tables, mes chéris, à nous délecter de harengs et à nous gargariser avec du cognac, que mangera et que boira le Bobby Tchèque?
Du pain sec et des larmes salées.
Ah, oh, le Bobby Tchèque, le Bobby Tchèque. Essayez de vous l'imaginer en train de nous chercher, oui, à cet instant précis. Le Bobby Tchèque sillonne la ville. Cours d'un commissariat à l'autre, d'un hôpital à l'autre, d'un hôtel à l'autre. Où sont-ils? Mais où sont-ils? Quant à Alté, elle... Oh, pardon, Alté. Alté, repose en paix au paradis. Pardon, je ne sais plus ce que je dis. On essaye de se réchauffer, alors on fait un feu de tout bois et...
C'est quand même bizarre tout ça. La vie est une grande bizarrerie. Mais une bizarrerie sans goût et sans intérêt. Non mais regardez-nous, on est sortis du lit tout chaud, nous voilà sur la plage en pleine nuit en décembre. Avouez que c'est bizarre.
À une certaine distance, Rosenberg et Liechtenstein qui ont continué leur jogging croisent Bobby Tchèque, lequel avance sur la plage. Il porte un imperméable et une écharpe autour de la tête. Rosenberg et Liechtenstein s'arrêtent à sa hauteur tout en continuant de courir. Eh ben, y a foule aujourd'hui.
Les gens ont peut-être entendu parler de nous.
Rosenberg, en pleine forme.
Liechtenstein, idem, la forme.
La Tchèque, Bobby Tchèque.
Gymnastique ou suicide?
Deuil. Ma mère vient de mourir et je suis à la recherche de ma cousine qui a disparu. Mais comme je ne sais absolument pas où elle est, j'ai décidé de venir ici pour regarder les vagues, me concentrer et me rafraîchir les idées.
Feu, votre mère faisait-elle du jogging?
Non.
Ah bah elle aurait dû, hein. On a un cœur tout neuf après un bon jogging. Ah bah c'est connu, hein. Dommage.
Oh ouais, ouais. Et vous auriez encore votre maman auprès de vous.
Et vous le jogging?
Vous n'allez pas faire la même erreur que votre mère.
À moins que vous ne soyez pressé de la rejoindre.
Qu'est-ce que j'y gagnerais?
Oh, 10 ans.
Et qu'est-ce que j'en ferais?
Bah vous courez.
Vous me dites que je courrais. Mais si je cours 1000 ans, est-ce que cela me rapprochera de ma cousine Shradia? Est-ce que cela augmentera mes chances de lui annoncer la terrible nouvelle et de lui donner l'heure de l'enterrement? Bref, est-ce que le jogging transformera la mort de ma mère en un événement qui comptera pour plus d'une seule personne sur cette terre ?
Positif. Ah bah, le jogging donnera un coup de fouet à votre circulation sanguine et tonifiera votre rythme cardiaque. Il oxygénera votre cerveau, augmentera la capacité de votre mémoire, la puissance de vos neurones. Le jogging vous évitera la sclérose et vous offrira une infinité d'idées nouvelles quant à l'endroit où se trouve votre cousine Shoshana.
Ma cousine Shradia.
C'est ce que je voulais dire. Et vous trouverez encore tout un tas de gens qui se précipiteront à l'anniversaire de votre maman.
Son enterrement.
Oui, c'est ce que je voulais dire.
Parce qu'elle a tout de même occupé une place dans ce monde.
Et le monde est un monde.
En avant, vers un monde plus sain
et rallongé de 10 ans.
Lapchek leur emboîte le pas. Ils courent tous les trois à la queue leu-leu. À un certain moment, ils font demi-tour et se mettent donc à courir en direction de la joyeuse bande.
Et revoilà nos deux sportifs en pleine forme.
J'en vois un troisième avec eux. Oh, c'est qui le troisième?
La tchèque, Bobby tchèque.
Un pique-nique, hein? Non mais je m'en fous, vous en foutrez, moi, des pique-niques.
Hey, cousine Shradia, cousin Rachès, maman est morte.
Oh, halte, halte, repose en paix, en bonne santé, au paradis. Mais tu vas me le payer cher, je te jure. Mes chéris, on n'a pas le choix, en avant pour le jogging.
À courir en plus de ça? Non bah alors là, bon, pas un simple pique-nique, un pique-nique olympique. La plage, hein? Qui a eu l'idée géniale de nous emmener à la plage? J'aimerais bien savoir qui.
Il approche, levez les talons et courez!
Quoi moi, avec mon gros cul, à mon âge, le jour du mariage de mon fils avec ce cul? Mais vous allez vous faire foutre, bande de staphylocoques drogués. Parce qu'un cul comme le mien, quand je m'assois sur des chiottes, j'ai les fesses qui se mouillent,
oh,
moi.
Ça ne sert à rien de pinailler maintenant, future belle-maman. Je ne crois pas que nous ayons le choix. Personne ici n'a un petit cul, pas même votre velvétien. Si bien que chacun d'entre nous se balade avec, comme on dit, son propre globe terrestre dans la culotte. Aucun d'entre nous n'a des fesses en plume, ma chère. Mais quand on doit se dépêcher, il faut faire avec. Parce que sinon, on verra aujourd'hui un fourgon noir au lieu d'une robe blanche. Suivez-moi!
Elle commence à courir tandis que les autres hésitent encore. Elle fait du surplace, offrant son arrière-train à Rachès.
Allez, viens, Rachès, viens! Rappelle-toi le temps où je te faisais courir après cette belle paire de fesses!
Rachès commence à courir, suivie par les autres.
Cousine Shradia, maman est morte!
Courez, mes chéris, courez! Ne vous perdez surtout pas en conjecture! Courez droit devant! Droit devant!
Jamais vu ça! Soudain, ils se sont envolés. Et toute la bande envolée. Dès qu'ils l'ont vu, l'autre, là, celui qui s'égosillait, ils ont couru, couru. Et c'est parti comme une fusée. Un instant, ils étaient encore à terre, et l'instant d'après, hop, dans les airs. À monter, monter.
Et l'autre aussi, le gueulard, quand il les a vus décoller, il a lâché un hurlement encore plus terrible, a fait aussi un énorme bond et s'est envolé comme eux. Il s'est lancé à leur poursuite avec des cousines Gradia ou cousines Tardia, je sais plus, et ils ont tous disparu dans les nuages.
Bah moi, si tu veux mon avis, je suis pas pour la haute voltige, hein, parce que la haute voltige, eh ben c'est moins bon pour la circulation sanguine et le souffle que la course à pied. Hein.
Indiscutablement.
Oui, puis ça fait pas travailler les muscles des jambes.
Ça aussi, c'est vrai.
Bah, la preuve, quelle est la durée de vie d'un oiseau?
Très courte, deux cuits-cuits et c'est terminé.
Bah tiens, montre-moi un oiseau qui atteindra le troisième millénaire.
Le troisième millénaire, le troisième tas d'ordures et encore.
Oh!
Tableau 4, l'Himalaya. Le matin, la joyeuse bande, Shradia, Rachès et Titskeva, sont en train d'escalader une haute montagne couverte de neige éternelle. Au Tibet, ils s'approchent du sommet.
Quelqu'un peut-il me dire où nous avons atterri ?
On a décollé vers le nord, on est resté 10 minutes en l'air. On doit être dans la banlieue nord de Tel Aviv, je dirais Herzliya.
Y a-t-il une montagne enneigée à Herzliya ?
On a décollé vers le nord, on est resté 10 minutes en l'air, on est dans les alentours de Herzliya.
Ils atteignent le sommet et en haut découvrent Chamandrina, un moine bouddhiste assis immobile dans la position du lotus.
Tiens, il y a même un type basané qui vend des sandwichs.
Nous sommes donc effectivement à Herzliya. Auriez-vous 5 sandwichs, s'il vous plaît ?
40 ans. Tout seul. Pas un oiseau. Pas un mot. Rien que moi et Dieu. Non, pas de sandwich.
Je n'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit, mais apparemment, il n'a pas de sandwich.
Et apparemment, on n'est pas à Herzliya.
J'ai dit aux environs de Herzliya.
Excusez-moi de vous déranger, mais nous avons atterri ici totalement par hasard et sans prendre de petit déjeuner. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de sandwich ? Je me présente. Shradia.
Rachès.
Titskeva.
Chamandrina, moine, Bouddha.
Vous nous envoyez enchantés. Et comment expliquer, si je puis me permettre cette question, la présence d'un moine bouddhiste tel que vous aux environs de Herzliya ?
40 ans, ici, l'Himalaya. Moi, pas bougé.
L'Himalaya ?
L'Himalaya, hein ? J'aimerais bien savoir qui a parlé de Herzliya.
Le Tibet. Va pour le Tibet. Le principal, c'est qu'on rentre à temps pour le mariage. Les premiers invités n'arriveront pas avant 6 heures.
Mais on a rendez-vous à 3 heures au Salon de Beauté Français International de Givatime.
Et alors, on atterrira directement à Givatime.
Et qui vous dit qu'on pourra de nouveau s'envoler, hein ? 2 miracles par jour, à supposer qu'on s'envole. Combien de temps on va mettre ?
10 minutes pour l'aller, 10 minutes pour le retour.
Et si on a le vent contraire ? Hein ? Quelque chose là-dedans, c'est ça ?
Oui, quelque chose là-dedans. Nous, du côté de la mariée, on est tous des têtes. Et vous, hein, du côté des mariés, tous des culs.
Lumbago incurable, cataplasme bouffi, encéphalite spongieuse.
Assez, assez, chut. Assez, future belle-maman, assez. Ne gâchez pas vos forces. Ouais. On a encore un vol Himalaya à Givatime qui nous attend aujourd'hui. On se calme, on se prend un petit quart d'heure de repos. On respire l'air pur. Et on repart. Dieu merci, le Bobby Check ne pourra jamais nous rattraper sur l'Himalaya. Et je vous demande de ne pas empêcher Mandrina de méditer sur ses trucs à la noix.
Oh, il fait froid. Encore plus que sur la plage.
Oh bah oui, oh qu'il est loin notre pique-nique ensoleillé sur la plage.
Excusez-moi de vous déranger encore une fois, monsieur Mandrina. Mais nous sommes partis sans petit déjeuner et j'ai bien compris que vous n'avez pas de sandwich. Mais peut-être avez-vous autre chose ? Autre chose, peut-être ?
40 ans sans manger.
40 ans ? Et de quoi se nourrit un moine bouddhiste tel que vous pendant 40 ans ?
D'air.
D'air, hein ? Je ne le crois pas, moi, ce filou. Il va attendre jusqu'à midi. Et quand on crèvera vraiment de faim, il nous proposera ses sandwichs 2 fois plus chers. Je vous préviens que ça ne marchera pas avec nous, monsieur Mandarine. Alors sachez que si vous aviez l'intention de profiter de la situation, c'est râpé. En clair, si vous avez quelque chose à nous proposer, mieux vaut le faire maintenant. Bon, comme comme vous voudrez.
J'ai froid et je gèle.
Ah bah oui, hein, non mais vraiment, ce pique-nique sur la plage, hein, c'était l'été.
Et si on allumait un feu?
Ah, HS. Allez donc nous chercher du bois sec pour faire un feu.
Et je ne vois pas de bois du tout.
Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire brûler? Tu parles d'une aubaine, ce Tibet?
J'ai lu que parfois les moines bouddhistes s'immolaient par le feu, en signe de protestation.
Et excusez-moi, encore une petite question. Envisageriez-vous, par hasard, de vous suicider aujourd'hui? Non? Alors, parce que justement, en ce moment, il y a une guerre quelque part en Asie.
Une guerre extrêmement cruelle.
Partout, le sang est versé.
Il faut protester.
Oui, oui, oui. Alors, on pensait que vous, en tant qu'humaniste, non? Quoi qu'il en soit, si vous changez d'avis, prévenez-nous. Bon, mes chéris, dans 10 minutes, on s'arrache d'ici. En attendant, pas un geste. Ne gâchez pas votre énergie. On va se réchauffer en se serrant les uns contre les autres, sans bouger. Exactement comme Mandarine. Hein? Oui. Oui, nous aussi, on va concentrer nos pensées sur un seul point. Qui sait, ce sera peut-être efficace.
Ils s'assoient tous en tailleur. Étant donné que le sommet est exigu, il se presse contre Chamandrina, qu'il pousse un peu. Le moine est très mal à l'aise, ses gestes et ses regards indiquent clairement qu'on le dérange dans sa méditation. Un temps, tous font des efforts de concentration.
J'ai froid.
Est-ce que tu te concentres bien sur un seul point?
Je me concentre sur des tas de points, mais j'ai quand même froid. J'ai froid. Oh, de plus en plus froid. J'ai froid, je sens plus mes genoux, je tiendrai pas jusqu'au mariage, je tiendrai pas.
Le Bobby Check, le Bobby Check est à l'approche, le Bobby Check arrive. Courons nous cacher derrière le sommet.
Tous obéissent, Shradia traîne Rachès qui arrive difficilement à bouger, Chamandrina ne bronche pas, la Check apparaît sur l'autre versant.
Je sais qu'ils sont là, où sont-ils? Je les ai vus atterrir, où sont-ils? Et toi, qu'est-ce que tu restes assis comme ça, comme un moine bouddhiste? Dis-moi où ils sont! À moins que tu ne sois de mèche avec eux. Où sont-ils? Ma mère est morte, l'enterrement est à 16h. Toi aussi, je t'invite. Où sont-ils?
On doit s'envoler tout de suite, future belle maman, sinon il va nous trouver!
Rachès ne peut pas décoller!
Moi, je me tire!
Chut! J'ai une idée. Attendez-moi là, un instant, je reviens. Je vais arranger ça. Je vous y mènerai, moi! Au mariage, envers et contre tout, je vous y mènerai.
Elle s'enveloppe d'un linge blanc, visage compris. Ainsi accoutrée, elle est méconnaissable et ressemble un peu à Chamandrina. Elle remonte jusqu'au sommet et se plante devant la Tchèque.
Tout le monde se déguise aujourd'hui en moine bouddhiste. On organise un carnaval le jour de l'enterrement de ma mère, c'est ça?
Monsieur Bobby Tchèque?
Où sont-ils? Je sais qu'ils sont là.
Certaines personnes que vous recherchez...
Où sont-elles? Où sont-elles?
...seraient prêtes à engager des négociations officieuses sans conditions préalables.
Officieuses? Qu'est-ce que ça veut dire?
Pas officielles.
Et je comprends pas. Moi, je cherche ma cousine, c'est tout. Bon, transmettez-lui juste que ma mère, Alte Bobicek, est morte et que l'enterrement aura lieu aujourd'hui à 16h.
Pas officiellement.
Officiellement, pas officiellement. Ma mère est morte.
Toute information transmise non officiellement sera considérée comme non transmise. On est bien d'accord?
Oui, oui, d'accord. J'accepte tout pourvu que je puisse enfin voir cette cousine.
Shradia enlève le linge qui l'enveloppait.
Cousine Shradia, je savais que c'était un déguisement. Maman est morte. L'enterrement aura lieu à 4h de l'après-midi.
Il indique Chamandrina.
Et lui? C'est cousin Rachès.
Il bondit vers Chamandrina.
Cousin Rachès, maman est morte. L'enterrement aura lieu à 4h de l'après-midi.
Il essaie de déchirer le vêtement de Chamandrina qui se défend. Ils se battent. La Tchèque continue à crier.
L'enterrement est à 4h de l'après-midi. Tu as drôlement maigri, cousin. Maman est morte.
Le vêtement se déchire. Chamandrina tombe à plat ventre. 40 ans. Oh, pas même un oiseau.
Et t'es drôlement ramolli, cousin. Maman est morte. L'enterrement aura lieu à 4h de l'après-midi.
Chamandrina reste étendue sur le sol. Ashradia.
Qu'est-ce qui lui est arrivé au cousin?
Ce n'est pas Rachès.
Tout à coup, c'est plus Rachès.
Non, lui c'est Mandarine, un moine tibétain.
Et comment un moine tibétain a-t-il atterri chez nous ?
Il n'a pas atterri chez nous, c'est nous qui avons atterri chez lui.
Au Tibet ?
Évidemment, où te croyais-tu ? À Erdilia ? Tu as déjà vu une montagne enneigée, Erdilia, toi ?
Mais l'enterrement est à 4 heures de l'après-midi. Au Tibet ? Et comment rentrerons-nous à temps, nous tous ? L'enterrement est fixé à 4 heures de l'après-midi.
Il tombe dans les bras de Shradia tout en continuant à crier.
Et dis donc, cousine Shradia, je pensais que jamais je ne vous rattraperais, jamais. Je pensais que jamais je ne pourrais partager avec quelqu'un ma terrible nouvelle.
Là, Tchèque, cette discussion était de toute façon officieuse. Je vais aller droit au but. Nous en avons marre de courir, marre de te fuir. Nous en avons marre que tu nous traques comme ça et je suis persuadée que toi aussi, tu en as marre de nous courir après.
Ah oui, j'en ai assez, cousine Shradia, assez, oui. Plus qu'assez. Tout ce que je voulais, c'est...
Attends, pas si vite. La Tchèque, pas si vite. Tu sais que Velvetia, ma fille...
Et Popochenko, mon fils...
se marie aujourd'hui.
Maman est morte, cousine Shradia. L'enterrement est à 16h.
J'ai dit pas si vite. Sinon, je romps immédiatement cette négociation officieuse et nous nous envolons. Envolons. Donc, ma fille Velvetia se marie aujourd'hui. Je me doute bien que tu ne peux pas imaginer à quel point nous avons attendu ce moment.
Si, justement, je peux.
Non, tu ne peux pas. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une famille, des enfants. Je n'exagérerai pas en disant que nous ne naissons que pour ce grand jour. Oui, oui, à 5 ou 6 ans à peine, je savais que j'étais venue au monde pour marier ma fille.
Mais cousine Shradia...
La Tchèque, je vais m'exprimer librement et en toute sincérité. Parce que nous ne disons tout ce que nous disons en ce moment est off the record. Et qu'officiellement, je ne suis pas au courant de la mort de ta mère.
Comment ça, pas au courant ? Je viens de te le dire.
Bobby Tchèque, je suis ici pour mener des négociations informelles et tu l'as accepté. Si je savais officiellement que feu ma tante Alte Bobby Tchèque était décédée, crois-tu que je ne serais pas la première à courir à son enterrement ? J'aurais repoussé le mariage de Velvetia sans la moindre hésitation. Aurais-je eu le choix d'ailleurs. Mais étant donné que ni moi, ni personne de ma famille n'avons été informés de ce décès, et je vais me débrouiller pour que cette situation perdure, eh bien, le mariage de Velvetia aura lieu comme prévu.
Et quand accepterez-vous de savoir que maman est morte ?
En ce qui me concerne, si c'est vraiment urgent pour toi, juste après le mariage. C'est-à-dire aujourd'hui à minuit. Quoique demain matin, ce serait encore mieux. Et si possible, pas avant 10h.
C'est que maman est quand même morte.
Ah oui. Dommage.
Mais cousine Shradia, pour moi, c'est urgent de t'annoncer la mort de maman.
Je te comprends.
Parce qu'il y a encore une chose que je n'ai pas dite. La plus importante. C'est que... Moi aussi, je veux en être. J'en rêve depuis toujours de participer au mariage de Velvetia. D'abord, je m'étais imaginé en mariée, et ensuite, lorsque j'ai compris qu'à l'évidence, Velvetia ne m'était pas destinée, en tant qu'invitée. Oui, j'ai toujours voulu assister au mariage de Velvetia. Et maintenant, me traîner sous la pluie comme un imbécile derrière le cercueil de ma mère, tout en sachant qu'au même moment, quelque part dans cette ville, on s'amuse sans moi à la fête que j'ai tant attendue.
Nous t'inviterons chez Velvetia après le mariage, plusieurs fois.
Ce n'est pas comme un mariage.
C'est plus qu'un mariage, c'est plus intime. Il y a moins de monde.
Mais je veux du monde. Beaucoup de monde, c'est le mariage que je veux.
D'accord, on organisera une autre grande fête, au moins aussi grande que le mariage, spécialement pour toi.
C'est pas comme un mariage. Et l'enterrement de ma mère ?
On enverra un représentant. Tu vas annoncer la nouvelle à notre représentant, et c'est lui qui nous représentera à l'enterrement.
Mais qui ?
On a un voisin. On a un professeur.
Mais il fait même pas partie de la famille.
Ce professeur, c'est l'idéal pour l'enterrement.
Maman, vous voulez vous. Sa famille, c'est vous. C'est vous qu'elle voulait.
Mais nous ne sommes pas disponibles, Bobby Tchèque. Tu as compris ? Nous sommes injoignables.
Vous et personne d'autre ?
Le professeur.
Vous ?
Non à la reconnaissance. Non à l'enterrement. Non à l'annulation.
S'il en est ainsi, cousine Shradia, je vous poursuivrai avec ma nouvelle jusqu'à ce que je vous attrape.
Tu peux toujours courir, espèce d'orphelin. Tu n'y arriveras jamais.
Je vous rattraperai, cousine, je vous rattraperai. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je m'offrirai le spectacle de vous voir tête basse suivre la dépouille de ma mère.
Au revoir, Bobby Tchèque.
Au revoir, Shradia.
Et passe mon bonjour à ta mère.
Elle est morte.
Je n'en sais rien. Moi, je lui transmets mon bonjour. toi, tu en fais ce que tu veux. »
Ils se détournent et commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Soudain, Tsitskeva surgit de derrière, la tchèque, et le pousse de toutes ses forces dans un horrible cri qui faiblit lentement. Ce dernier tombe dans le vide. Tchradzia et Tsitskeva le suivent du regard et lorsqu'il a disparu, elle soupire. Tchradzia lève les yeux vers le ciel et reprend en sanglotant.
« Cher Alte, repose en paix au paradis. Nous sommes sauvés, sauvés. Le mariage de Velvetia
et de Popotchenko
aura lieu comme prévu, sauvés. Le mariage aura lieu. C'est le cousin qui est annulé. Il n'y a plus de Bobitchek. Nous avons éradiqué les Bobitchek de la surface de la terre. Fini. Nous sommes sauvés. »
Le reste du groupe sort de sa cachette. Rachès rampe difficilement.
Et maintenant,
ils commencent tous à remuer les bras et décollent. Sauf Rachès et Tchradzia. Rachès fait plusieurs tentatives, mais son corps trop gelé ne répond plus.
Je pensais que tu m'avais abandonné dans les neiges du Tibet.
Qu'est-ce que tu vas rechercher, Rachès?
J'ai cru que tu t'étais envolée.
Envolée? Mais pourquoi faire, Rachès?
Pour aller acheter un appartement.
Un appartement pour qui?
Pour Velvetia.
Velvetia qui va faire quoi?
Pour se marier.
Se marier pour faire quoi?
Un petit-fils.
Qui s'appellera comment?
Rachès.
Mais pourquoi, Rachès?
Pour moi.
Oh, jamais je ne te quitterai, Rachès.
Surtout qu'on ne peut pas célébrer un mariage sans moi, n'est-ce pas?
Évidemment, tu seras toujours avec nous.
Parce que nous avons construit notre vie sur cet événement. Un événement que nous avons attendu et espéré longtemps.
Où que tu sois, où que je sois, et où que soit Velvetia, tu seras toujours avec nous, très profondément dans nos cœurs.
Elle se lève et commence à s'éloigner tout doucement, la gorge nouée par les sanglots.
Toujours avec nous, Rachès, toujours. Nous n'oublierons jamais le rôle que tu as tenu, où que nous allions, sous le dais, pendant le repas de noces, pendant le bal, et longtemps, longtemps après. Tu vivras dans nos cœurs pour l'éternité. Jamais ton souvenir ne s'effacera. Rachès, tu seras toujours avec nous.
Elle s'éloigne en étouffant ses larmes et prend son envol. Chamandrina, qui a retrouvé ses aises, lâche un soupir de soulagement. Oh, Rachès, qui ne s'est pas aperçu du départ de Tchradzia, et continue à lui parler.
J'ai le dos complètement engourdi. Tu te souviens du jour où on nous a livré notre premier frigo? Je l'ai branché, on s'est planté devant toi, toi et moi. Une fine buée de froid a recouvert les parois du friseur. On aurait dit le duvet d'un jeune poussin. Le moteur ronronne agréablement. Eh bien, moi, tu sais quoi? Je n'échangerai pas ce moment contre un séjour, tout compris dans les Alpes.
Sa voix faiblit de plus en plus.
J'étais debout avec toi. On est resté main dans la main. Notre lune de miel, je n'échangerai jamais.
Apparaît l'ange de la mort. Angel Samuel. Angel Samuel, l'ange de la mort, je suis venu prendre ton âme.
Mais je marie ma fille ce soir. Ce mariage est fixé de longue date.
Mais ta mort aussi.
Laissez-moi marier ma fille ce soir. Et j'ai attendu ce moment toute ma vie.
D'accord. Monsieur Rachès, je vais te laisser vivre ce mariage, mais toi, en échange, tu vas me rendre un petit service. Lâche un peu de gaz.
De gaz?
Oui, par derrière, tu sais. Comme vous aimez tant le faire.
C'est tout? Ah, mais volontiers. Ça, je le fais même quand on ne me le demande pas. Toujours avec grand plaisir. Matin, midi et soir. En particulier, j'adore le faire quand j'assiste à des conférences. Voilà pour vous.
Oui, c'est parfait. Surtout, ne t'arrête pas. Libère-toi, comme ça. Oh, très bien. Oui.
Oui, voilà. Je suis arrivé à acheter un réfrigérateur. Je vais assister au mariage de ma fille. Et j'ai même lâché un paix mémorable au sommet de l'Himalaya. J'ai vécu incontestablement. J'ai vécu. J'ai eu une vie bien remplie. On pourrait même dire exceptionnelle. Oui. Aucun regret à avoir sur cette vie-là. Même dire exceptionnelle. Ouais. Aucun regret à avoir sur cette vie-là. Oh, c'était bien. C'était une vie parfaitement. Ouais, c'était bien, bien. Et pourquoi moi? Pourquoi Rachès?
Il meurt. Angèle Samoilov guide l'âme dans son envol. Viens, viens, âme légère, petit papillon nauséabonde. Plus haut, comme ça, c'est bien. Il va pour sortir, s'arrête, se tourne vers Chamandrina. Et toi, monsieur Chamandrina?
40 ans, je suis prêt, le ciel, c'est quand vous voulez.
Angèle Samoilov s'approche de lui, l'examine dubitablement, puis d'un mouvement rapide mais sûr, il le soulève par la nuque, remarque qu'il est léger comme une plume.
Allez, lâche un peu de gaz.
Chamandrina fait un effort pour lâcher un paix. Sans succès.
Oh, ce type, même pété, il n'en a pas la force. Prêt le ciel, quand vous voulez.
Tableau 5, le toit de tuiles. Le toit en pentrade d'un immeuble très élevé. Les rescapés, Titskeva et Shradzia, s'accrochent aux tuiles afin de ne pas glisser.
J'aimerais bien savoir qui a crié cap sur le toit du salon de beauté français international, hein, qui...
Tais-toi, langue de vipère. Qui pouvait deviner que ce serait un toit aussi pentu?
Des têtes pensantes dans cette famille. Ah bah chapeau, hein, vous êtes plus malins les uns que les autres.
Et alors, dans une journée pleine de rebondissements, en voilà un de plus, c'est
tout. Ah bah
tout.
Pour un rebondissement, oui, c'est un rebondissement. Et dans un instant, on va tous rebondir en bas, on explosera en petits morceaux pleins de sang. Oh. Protozoaire arriéré.
Non mais, pour qui vous vous prenez? Critiquez ça, oui, tout. Toute la journée, critiquer et encore critiquer. Vous passez votre temps à râler. Vous avez fait un fils qui a réussi à se hisser à la hauteur de Velvetia. Et alors, ça vous donne tes trois?
Non, mais dites donc, c'est qui, si je peux me permettre, votre fille, hein? C'est qui?
Ma fille, quand elle est debout, votre fils, lui, il est à quatre pattes.
Mais quand mon fils est à quatre pattes chez le berbe-maman, votre fille est en dessous, jambe écartée.
Mais quand ma fille est en dessous, jambe écartée, chère belle-maman, votre fils est encore plus bas, parce qu'il est descendu au rez-de-chaussée jeter la poubelle.
Mais quand mon fils est au rez-de-chaussée en train de jeter la poubelle, votre fille et vous tous d'ailleurs, chère belle maman, êtes plus bas que terre. Vous êtes dans le trou avec votre alté-calté.
Mais quand nous et notre fille nous nous trouvons plus bas que terre dans le trou, chère belle maman, vous et votre fils, vous vous enfoncez encore plus bas, tellement bas que vous ressortez de l'autre côté, en Australie.
Espèce d'amibe impuissante, infusion virale, bacille de choc.
Elles en viennent aux mains, si bien que l'une d'elles trébuche et déséquilibre tout le monde. Avec des hurlements de terreur, elles se rattrapent et se trissent au rebord du toit et ne font plus un geste de crainte de s'écraser en bas. C'est alors
que pointe au-dessus de l'arête du toit le visage ensanglanté de la Tchèque.
Vous voilà, fin prête, tête basse pour l'enterrement de ma mère.
Elle se crispe. Elle baisse encore un peu plus la tête et évite de regarder la Tchèque qui émerge totalement et va s'asseoir en haut de toit pour lancer d'une voix forte et claire.
Car voilà, je vous l'annonce officiellement, ma mère est morte. Son enterrement se déroulera aujourd'hui à 4 heures de l'après-midi.
Un temps, personne ne réagit. Kipernay qui appelle d'en bas.
Monsieur Bobichek, vous êtes là? Là-haut?
Non mais, c'est le professeur Kipernay. Non mais en fait, on fait comment là pour monter? Tableau 6, l'allée de Sycomore. Fin de journée, l'allée de Sycomore qui mène à la maison mortuaire du cimetière. Un banc isolé. Les intempéries se sont calmées, un soleil hivernal pointe entre les nuages. Shradia Tsitskeva, bref, ce qui reste de la joyeuse bande, apparaissent à la queue leu-leu, penaude et courbant l'échine, tels des forçats. La Tchèque marche à côté d'eux et les surveille, essayant de réprimer la joie triomphante dont il est animé. La Tchèque s'arrête et lance impérieux.
Stop !
Tous obéissent. La Tchèque les compte puis se frotte les mains de satisfaction.
Comme je regrette que le cousin Rachès ne soit pas des nôtres. Je me l'étais si bien imaginé à l'enterrement de maman. D'une manière générale, je déplore l'absence de tous ceux qui ne sont pas là, de la terre entière, oui. Il y a tellement de gens qui n'assisteront pas à l'enterrement de ma mère. Quel gâchis.
Entre le croque-mort, il tire un chariot funéraire. Derrière, marche Liechtenstein, qui se tourne vers le groupe et leur indique le cercueil.
Oh, Rosenzweig, ce matin encore, il était en pleine forme et faisait du jogging sur la plage. Il avait 60 ans et aurait dû mourir à 50. 10 ans de gagné. Vous venez ?
Ils sont déjà pris, ceux-là !
Liechtenstein continue à marcher tout seul derrière le cercueil, s'arrête soudain.
Et qui me dit que nous ne nous sommes pas trompés ? Que nous n'avons pas couru en vain ? On aurait peut-être dû nager au lieu de courir. Si un jour je me rends compte que je me suis trompé...
Le croque-mort s'en va avec le chariot suivi par Liechtenstein. Tous regardent un instant en silence ce triste enterrement, puis Shradia et Tsitskeva viennent se planter à droite et à gauche de la Tchèque et l'attrapent comme si elle cherchait à le soutenir. Shradia commence à se lamenter.
Oh, la Tchèque. La Tchèque. Quel homme exceptionnel. Ta grandeur d'âme. Et le courage, l'obstination avec lesquels tu nous as poursuivis. Sans faiblir, jusqu'à ce que tu nous aies rattrapé.
Un homme, un vrai.
Quel dommage.
Quelle vie gâchée.
Sans femme, sans goûter au bonheur.
Seul comme un chien.
Toutes ces années à s'occuper de sa vieille mère avec un tel dévouement.
À se laisser exploiter.
Il a renoncé à tout pour elle. Il n'a jamais pensé à lui, jamais.
Jamais il ne s'est dit « Et moi alors ?» Ou bien « Quand est-ce que je commencerai enfin à vivre, moi ?»
La Tchèque se pleure amèrement.
Qu'est-ce que j'aurais dû faire, hein ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour pouvoir, moi aussi, vivre un peu ? Maintenant, j'ai l'enterrement de ma mère sur les bras, là, la femme qui m'a mis au monde. Ma mère.
Shrazia caresse la tête de la Tchèque qui sanglote contre sa poitrine.
Maman ! Maman ! Oui, on trouve toujours des prétextes pour ne pas vivre.
Il a peur de se lancer. Bon, bah, un peu de virilité, ambile estropié.
Non, la Tchèque, non. Tu oublies l'enterrement. Tu oublies toutes ces broutilles. Et tu viens avec nous au mariage. Voilà, c'est décidé. Je ne laisserai personne ruiner ton avenir.
L'enterrement...
Tu viens avec nous, ne discute pas.
Même si j'acceptais, que diront les gens s'ils me voient aujourd'hui à un mariage ?
Les gens ? Quels gens ? Qui en saura quelque chose ?
Et qu'en pensera Velvetia ou son fiancé ?
Velvetia ? Oh ! Mais Velvetia a autre chose à faire que de penser à toi.
Et qu'en penseras-tu, toi ?
Moi ? Mais tu n'as rien à me cacher, la Tchèque. Je suis ta cousine.
Mais la famille, c'est sacré. Mmh.
Mais moi, qu'est-ce que j'en penserais, moi ? Hein, comment j'arriverais à le justifier à mes propres yeux ?
À tes propres yeux ? Tu as peur de toi ? Mais toi, c'est toi. Tout reste à l'intérieur. Où est le problème ?
Et ma mère ? Comment me justifier aux yeux de ma mère? Elle sera enterrée toute seule? Toute seule?
Enfin, ta mère. Ta mère, tu ne le sauras pas. Elle est morte. Elle est morte avec la certitude que tu assisteras à son enterrement, que nous y assisterons tous. C'est le principal.
De toute façon, comment elle saura qu'on n'est pas venu? Hein? Est-ce qu'elle entend quelque chose? Est-ce qu'elle voit quelque chose? Est-ce qu'elle peut savoir quelque chose? Au contraire, elle repose en paix dans sa tombe, persuadée que tout le monde s'est précipité à son enterrement. Tout le monde, 1 million de personnes, le président de la République, l'armée entière avec ses coups de canon, un événement national. Hein, pourquoi pas? Quelqu'un va aller lui raconter le contraire?
Attends, la Tchèque se tait. Tradia lui caresse la tête. Il recommence à pleurer, cette fois si très faiblement.
Exactement. Et avec toi-même, tu t'arrangeras. Crois-moi. C'est la chose la plus facile. Allez, viens.
La Tchèque se laisse entraîner par les deux femmes tout en pleurant.
M'obligez-vous contre mon gré à abandonner ma mère pour vous suivre au mariage?
Oui, la Tchèque. Oui, on t'oblige.
Par la force?
Oui, la Tchèque. Par la force.
La Tchèque s'arrête un instant, ses sanglots reprennent leur vigueur.
Vous n'avez pas plus de force que ça?
Si, la Tchèque. Voilà.
Shradia et Titkeva le soulèvent et sortent avec lui.
Monsieur Bubicek, ici le professeur Kipernay. Non mais, ça va commencer dans moins d'une heure, hein. Alex Ambers is Mark from Dumb.
Table 7, le mariage. Le soir, une luxueuse salle de réception en ville. De la musique, des gens qui boivent, mangent, dansent. Au milieu de toute cette effervescence apparaît un visiteur masqué. Il s'assied dans un coin et commence à se goinfrer discrètement. Pendant ce temps, très discrètement, l'invité masqué se rapproche de Pshoshitsia, une belle fille rieuse qu'il n'a cessé de regarder, et s'assied à côté d'elle.
Vous me regardez tout le temps? Bah, et qui êtes-vous? Mais pourquoi portez-vous un masque?
Vous vous cachez.
On n'est pas un bal masqué, hein, on est un mariage.
Mais si je vous intéresse, c'est justement parce que je porte un masque. Vous intéresseriez-vous à moi si je l'enlevais? Pourrais-je encore prétendre à votre amour si je vous montrais mon vrai visage?
À mon amour? Oh, quelle drôle d'idée!
Avec mon masque, j'ai une petite chance, non? Avouez que j'ai une petite chance. Si je l'enlève, qui me dit que je l'aurai encore? Nous allons danser tous les deux, joue contre joue. Et tu prieras pour que cela ne s'arrête jamais. Tu seras mienne, tu m'épouseras. Tu me donneras bonheur et réconfort, oui. Je serai le plus heureux des hommes.
Et maintenant, tu enlèves ton masque parce que je commence à être très curieuse.
Non, pas si vite. Tu dois me laisser encore quelques instants à vivre dans l'espoir. Ah, magnifique espoir. Increvable espoir. Que dirais-tu d'un dîner en tête-à-tête? Tu vois comme je tremble? Je crève de trouille rien que de penser à l'instant où je vais devoir enlever mon masque. Je sais que sans masque, tu ne me regarderas plus. On danse?
Non, pas avant que vous n'ayez enlevé votre masque. Hein.
Le convive masqué approche les mains vers son visage et enlève son masque. En dessous se révèle un autre masque, un peu plus triste que le précédent. Pshoshitsia rit.
Je veux que tu saches que le visage qui est sous ce masque n'est pas lui non plus mon vrai visage. Qu'en dessous il y a encore un visage, au-dessous duquel il y a encore un visage, et qu'à chaque stade, les visages embellissent, se purifient. Le dernier visage n'est que lumière, une lumière pure et claire.
Il lève les mains vers son visage, enlève son masque. En dessous apparaît encore un masque plus triste.
On peut danser maintenant?
Je veux le dernier visage, le dernier.
Juste une danse à la lueur de l'espoir.
Tremblant d'émotion, le convive masqué ouvre lui aussi les bras. À cet instant, apparaît le professeur Kipernay. Il est si bouleversé que son entrée stoppe la musique. Tous se figent. Silence total.
Professeur Kipernay, je ne suis pas là en tant qu'invité, je n'ai pas été invité, bien que je sois un voisin, mais la famille de la mariée ne me parle plus depuis des années. Je ne sais absolument pas pourquoi. Non, ma venue ici
n'est motivée par aucune invitation personnelle. Elle est dictée par une morale supérieure qui exige ma présence ici, bien que je n'ai pas été invitée. Mesdames et messieurs, j'ai toutes les raisons de croire que se cache parmi vous un individu qui tente d'échapper à l'enterrement de sa défunte mère, morte cette nuit. Un individu qui préfère s'amuser au mariage plutôt que de payer son tribut au deuil. Un individu dont la mère poirote dans un cercueil noir depuis 4 heures de l'après-midi et ne repose toujours pas, à cause de lui, sur sa couche éternelle. Mesdames et messieurs, cette même morale supérieure m'ordonne de retrouver cet individu et de le ramener sur la tombe de celle qui l'a mise au monde. Alors moi, j'obéis.
Il commence à déambuler dans la salle à la recherche de la Tchèque. Le convive masqué recule lentement et discrètement vers un coin éloigné, espérant passer inaperçu. Ses instants dans la fête étant comptés, il boit et mange tout ce qu'il arrive à attraper. Kipernaï examine tous les convives, les scrute tel l'envoyé du destin et s'arrête devant l'homme masqué qui se fait encore plus petit et détourne la tête. Mais soudain, Kipernaï est envers lui un doigt accusateur et...
Voilà l'individu qui a trahi la mort de sa mère. Il s'appelle la Tchèque Bobichek. Et il a troqué l'enterrement de sa génitrice contre un quart de poulet rôti.
La joyeuse Petitsa s'approche de l'homme masqué qui se contracte tête basse. Elle déchire le troisième et dernier masque. Le visage de la Tchèque apparaît.
Bobichek, dehors, retourne à ta place dans l'obscurité, sous la pluie, à l'enterrement de ta pauvre mère, seule et oubliée.
La Tchèque se relève lentement et, courbée, commence à marcher vers la sortie. Il s'arrête devant Kipernaï.
Et vous, qu'est-ce que vous me voulez? Hein, de quoi je me mêle? Vous vous demandez encore pourquoi les gens ne vous adressent plus la parole? Ce visage, c'est celui dont tu parlais quand tu disais « Je veux voir le dernier ». Le voilà. Aurais-tu pu m'aimer?
Non.
Merci, ça me console.
Il rafle encore quelque chose sur une table, se le fourre dans la poche et sort. J'ai fait mon devoir, moi aussi. Je vais à l'enterrement parce que j'ai promis et que le professeur Kipernaï tient toujours ses promesses. Bonsoir.
Tu parles d'un professeur?
Kipernaï, qui commençait à sortir, s'arrête comme s'il venait de recevoir un coup de couteau dans le dos.
Ce type n'est qu'un tailleur pour dames.
Se tourne vers les invités.
J'ai enseigné pendant 3 ans en Italie, près de Milan, dans une école pour jeunes filles au département coupé-assemblage. Enfin, sur ce, bonsoir.
Il sort.
La fête continue, mes chéris. Allez, dansez, dansez. Sachez que vous dansez sur mon heure de gloire.
Tableau 8. Funérailles d'hiver. L'aube du lendemain dans une rue de la ville. Un jour glacial. Le vent souffle. Il pleut. Le croque-mort tire le chariot sur lequel se trouve le corps d'Alte Bobichek, la mère de Bobichek. La Tchèque Bobichek marche derrière. Il a la mine barbouillée des lendemains de fête. Le fantôme d'Alte est ici. Regarde, un enterrement. Un homme court sous la pluie, derrière un caisson noir.
Dire que toute ma vie j'ai rêvé de suivre la dépouille de ma mère au bras d'une jolie femme amoureuse. Une femme qui m'aurait consolé, aurait accompagné mes gémissements rauques et discordants de ses sanglots doux et harmonieux. Une femme qui serait ensuite rentrée avec moi à la maison, qui m'aurait préparé du thé, caressé le front et m'aurait dit d'une voix chaude et apaisante: ainsi passe le temps. Certains s'en vont, d'autres arrivent. Ainsi passe le temps. C'est ce qu'elle m'aurait dit, de sa voix chaude et apaisante. Une voix qui aurait contenu en elle une immense promesse de vie.
Kipernaï apparaît, va se placer derrière la Tchèque et le cercueil. Il se frotte les mains de satisfaction, tout en gardant ses distances vis-à-vis de la Tchèque. Et me voici, moi, à l'endroit où, hier, ne l'oublions pas, j'ai été personnellement invitée. C'était... C'était Funérailles d'hiver d'Anok Levin, lu en direct de Radio Canu, le 102.2. Nous allons devoir nous quitter car nous avons un petit peu débordé sur notre temps à partie. Je remercie Pauline, Sarah, Stéphane et Fatah pour leur lecture.
Merci Amandine.
Merci.
Merci à toi.
Le Théâtre de la Gamelle revient donc la semaine prochaine avec une nouvelle lecture. D'ici là, passez un bon week-end et un bon 1er novembre. Car ça y est, nous sommes en novembre. Bonne journée.